rendez-vous de midi. Musique, littérature, débat d'idées. Une émission qui s'inscrit dans le sillage de la revue La Pensée de Midi et qui vous propose pour ce numéro de mai trois rendez-vous. Un rendez-vous musical qui explore les différentes formes de rap du monde arabe à partir de l'exemple de Casablanca, de la Palestine et de Dubaï. Un grand rendez-vous avec l'écrivain et éditeur Hubert Nissen, fondateur des éditions Actes Sud, à partir d'une rencontre qui s'est tenue à Paris au centre Valeny-Bruxelles. Et une incursion poétique dans les derniers textes qui viennent de paraître du grand poète Yves Bonnefoy.
Bonjour, aujourd'hui pour cette partie musicale du rendez-vous de midi, nous allons faire une incursion dans les pays arabes, dans un mouvement, pour connaître un peu un mouvement musical qui est en plein développement et qui correspond au hip-hop. Alors pour ce faire, nous avons deux invités. Nous avons Mounir Kabbaj, qui est musicien, qui a travaillé sur plusieurs festivals au Maroc, puisqu'il est marocain, qui va nous parler un peu de cette nouvelle scène, qui est apparemment une des plus dynamiques dans les pays arabes au niveau des musiques underground. Et puis nous avons Marjolaine Pezin, qui travaille en ce moment à La Pensée de Midi, qui est une amatrice de hip-hop, et qui d'ailleurs a même gagné un prix, puisque c'est une danseuse de hip-hop, elle a gagné un prix. Marjolaine, c'était...
Big Girl Champs, en fait, à Berlin. C'est un championnat mondial de breakdance féminin.
Voilà. Très bien, donc bienvenue à tous les deux. Donc nous allons parler de cet univers musical, le hip-hop, qui démarre depuis assez peu de temps, en fait, dans les pays arabes. On commence à le connaître grâce surtout à la scène marocaine. Et donc Mounir va nous présenter un peu cet univers.
Bonjour tout d'abord. Cet univers, l'univers hip-hop marocain.
Oui, les musiques underground au Maroc, ça date de quand
Ça date de quand on pourrait le dater à une dizaine d'années, voire une douzaine. On pourrait dire que ça a commencé vers 98-97 avec des groupes de rock tout d'abord, des groupes de métal à la base, rock et métal. Et puis, ça, au fur et à mesure, s'est développé une scène hip-hop, une scène électro, une scène fusion, enfin ce qu'on appelle fusion Maroc, c'est-à-dire tout ce qui est mélange musique traditionnelle, musique du monde et influence urbaine, reggae, funk, rap, rock. Voilà. Et puis aujourd'hui, cette scène compte plusieurs groupes, des têtes d'affiche, des groupes un peu plus amateurs, en tout cas des groupes qui tournent aussi, des groupes qui tournent un peu à l'étranger, qui tournent au Maroc aussi, des festivals, un festival en particulier, le Boulevard.
Voilà, alors il y a un festival qui est assez important apparemment, qui draine beaucoup un très large public.
C'est le festival Le Boulevard à Casablanca, qui a lieu au mois de juin, et qui fête cette année d'ailleurs ses 10 ans. C'est un festival qui a commencé dans une petite salle de Casablanca, dans une belle salle quand même. Une salle où ça a commencé à 300 personnes. Et puis aujourd'hui, il draine à peu près 30 000 personnes par jour et par scène, des fois même. Et avec 4 jours, une programmation très éclectique qui va un peu dans tous les sens, mais surtout dans le sens de ce qui se fait au Maroc, c'est-à-dire une journée électro, une journée hip-hop, une journée... rock, metal et enfin une journée à musique du monde, jazz, reggae, tout ce qu'on appelle fusion au Maroc. Voilà.
D'accord. Donc dans ce boulevard, beaucoup de groupes se sont fait connaître. On remarque d'ailleurs, d'après ce que vous me disiez dans une conversation précédente, c'est que au Maroc, on trouve un peu tous les styles dans les musiques underground, mais aussi dans le hip-hop. Il y a le style plus américain, le style fusion, différents styles. Et parmi ces groupes qui ont été découverts, il y en a un. C'est surtout un chanteur en fait. Hein, il s'appelle oui. Big. Hein. Et donc, c'est un chanteur qu'on va écouter tout à l'heure. Et donc, j'aimerais bien que vous nous le présentiez.
Big, il a sorti son album en 2006. Voilà.
Son premier album.
Son premier album solo. Après, il a fait partie de projets auparavant. Il a fait partie de Mafia C. mafia casablancaise. Et en fait, avec, il fait partie des anciens rappeurs de Casablanca en tant qu'amateur, et puis des nouveaux rappeurs en tant que professionnels. C'est-à-dire que aujourd'hui il a sorti son album, enfin en 2006 il a sorti son album, puis ça a été l'ascension fulgurante parce que ça a été un album d'une grande qualité avec énormément de featuring, des messages très très forts, des textes bien travaillés, un flow très très puissant. Donc ça a pas raté quoi, la sauce a pris direct, et puis Casablanca manquait d'un rappeur ou d'un groupe de rap très représentatif du style casablancais, du parler casablancais, ce parler un peu cru, un peu violent, un peu nerveux, que n'ont pas forcément les autres villes, puisque ce sont pas des métropoles. Casablanca est la métropole marocaine, et donc il a été direct intronisé rappeur casablancais par excellence.
Très bien, donc on va écouter un morceau où il raconte en fait sa vie, c'est 1983-2006.
Tu peux le dire en arabe.
On vous écoute.
Al-Fout Samiot, la Tchouchimani, Al-Fainous Tia.
Merci.
It was my way, son, for Kenny. Hey, you fun. I can't even breathe, but I'll be a hoya. وباقي من اولها ما عارف مكتب واش دابا زوين بالخيب اللي بكاني ولا حسب اطر في الصباع داكشي اللي فرحني مركب جمعت صباعي فوق والقبضي الصوره حياتي ما الدرب 1983 كاس شفتي في الصباع مجموع ما بين يدي الوالدة والوالد كيف راح ما كنتش عارف اللي البكا اللي خرج بيه هذاك النهار مازال غتبعني ايام ايام والعيشه مازالت احرار 85 تعلمت نمشي في طريق المحفره ديال الروج يدي في يدي اللي ربيتني يا خوتي ما تغروش ما عمري ما تربيت في فيلا ولا فكرت شي تهبل ما عمري سويت شفت ولا عش في الكريان 88 خرج مع لي لباس عليهم وتشوف الفرق ما بيني وبينهم كان كبير في المصروف 95 خرج مع لي بقود عليهم وتشوف الفرق ما بيني وبينهم كان كبير في الخوف
Voilà, donc c'était Big 1983-2006. Et donc, Mounir, si vous voulez nous dire deux mots sur un peu les paroles de cette chanson.
Ben, cette chanson, c'est un peu sa biographie, enfin son autobiographie. Il raconte un peu sa vie, son enfance à Casablanca, il raconte un peu les quartiers, l'état des quartiers. Il précise aussi que la classe sociale d'où il vient, Big venant de la classe moyenne, il dit voilà, j'ai pas grandi dans la merde, j'ai pas grandi non plus dans la richesse. J'ai grandi entre les deux, mais ça veut pas dire que j'ai pas galéré, donc il explique ça, voilà, c'est un peu tout son parcours, et puis il explique aussi comment il en est arrivé à se retrouver devant un micro à chanter.
Donc c'est ce qui est intéressant en fait dans le hip-hop, c'est qu'on a des textes, surtout au Maroc, qui sont très percutifs et qui sont très critiques en fait, hein, même si c'est toujours un point de vue assez individualiste, mais c'est un point de vue sur ce qu'on vit au quotidien, tous les problèmes qu'il y a dans la société marocaine, dans les... tous les problèmes qu'on peut rencontrer en fait, hein. Donc et il se trouve que il y a un autre pays qui est la Palestine où on a beaucoup de choses à dire aussi, et donc là on va vous présenter un groupe qui s'appelle Ramallah Underground, qui ne se veut pas un porte-drapeau, il ne veut pas être considéré uniquement en tant que Palestinien, mais qui quand même a beaucoup de choses à raconter sur sa situation. Alors Marjolaine, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce...
Ouais, bah déjà du fait du départ de la volonté de rapper en fait des rappeurs eux-mêmes, parce que savoir qu'à la base c'était uniquement des producteurs, ils produisaient les sons et ils ont décidé de se mettre au rap après la deuxième intifada. Donc parce que la musique ça suffisait plus et ils voulaient vraiment exprimer l'horreur qu'ils ont vécue après cette période-là. Et donc ce groupe, ils sont trois, Boycott, Aswat et Stormtrap. Ils vivent pas tous en Palestine. Donc Boycott, il est toujours à Ramallah. Il est parti aux États-Unis, mais il est revenu à Ramallah parce que c'est là-bas que se trouve sa famille et qu'il a envie de faire des choses. Les autres, il y en a un qui est à Vienne, en Autriche. Il y a un membre qui est à Amman, et en fait ils se sont tous rencontrés à Dubaï, donc c'est ils gardent cet attachement à la Palestine, mais en même temps c'est un peu grâce à, je suppose, au fait qu'ils aient voyagé comme ça qu'ils aient pu faire des choses et se diffuser un peu.
Donc ils ont commencé, je crois, uniquement avec des disques, et maintenant ils commencent aussi à rapper.
Ouais, bon, ils produisent sur, enfin, je suppose sur ordinateur, quoi. Mais parce que bon, le problème aussi du hip-hop, c'est que voilà, pour faire du DJing, il faut avoir des disques, justement des vinyles, et ça ils n'ont pas forcément accès, quoi. Donc c'est production à partir de logiciels. Bah, Boycott, il disait qu'il avait commencé à faire des sons à partir de sa PlayStation quand il avait 12 ans, quoi.
Ouais. Il y a peu de groupes d'ailleurs en Palestine par rapport au Maroc, même s'il y en a bien sûr, mais il y a Dam notamment.
Ouais, Dam qu'on connaît parce qu'ils ont un peu tourné en France, mais Dam en fait ils sont d'Israël, c'est des Arabes palestiniens d'Israël en fait, qui sont voilà, on dit les Palestiniens de 48, quoi. Donc c'est encore différent, et en plus la scène en Palestine a du mal à se développer parce que le territoire est complètement bloqué, ils peuvent pas, les groupes peuvent pas se rencontrer pour aller d'une ville à l'autre, ça devient tout de suite problématique, donc voilà, c'est un peu bloqué comme ça. Et d'accord. En fait, Ramel Underground, eux, ils se diffusent sur Internet.
Oui, c'est d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est le développement de MySpace que tous les groupes de hip-hop utilisent, et ce qui a permis cette effervescence et ce développement dans tous les pays arabes depuis 15-20 ans, et surtout depuis très très peu de temps en fait, hein, depuis les années 2000 essentiellement. Donc là, on va écouter un morceau de Ramel Underground, un morceau qui s'appelle Natarja Bella Shogol. Désolée pour cet accent arabe un peu limité. Et donc, on va écouter ce morceau.
نتيجة بلا شغل مش معقولة مش ححقق أحلامنا بهالسهولة واعين في القصة من وقت الطفولة ولسه ما تغير إشي في وقت الرجولة نتيجة بلا شغل مش معقولة مش ححقق أحلامنا بهالسهولة واعين في القصة من وقت الطفولة ولسه ما تغير إشي في وقت الرجولة تفكيره ولا في عقلي زي البيض المقلي خسران حقي بدك جنة وجهنم انت بتنقي زي المخنوق ومربوط معلق بالشقلوب نتعذب بس نتحدى اي واحد نفكر حاله قدها حواجز هون وهناك جدار وسلاك اذا بدنا نوصل جهة تانية لازم نتاك هاي حياتنا وعم نطبع بس هون كل يوم العب لك في اعصابك بعد 10 سنين حكون كبير حمير مشاكلنا حيدقوا فينا زي المسامير وما حيكون في حد عايش حياة الملك او الامير عشان الارض لمين الارض للكل كل ما نخسر منها شوي نخسر من حالنا شوي اكتر والمخسر بتكبر يوم ورا يوم ودانا عم بتدمر يوم ورا يوم ودانا عم بتدمر ايوه هيك نتيجة بلا شغل مش معقولة مش ححقق احلامنا
منير كباج qu'en pensez-vous?
Ben déjà, moi je trouve ça génial parce que il rappe en dialectal palestinien, parce que bon, on parle de pays arabes. Moi, j'ai déjà beaucoup du mal à considérer le Maroc comme un pays arabe, et enfin le Maghreb en général comme des pays arabes, parce que des pays aux cultures arabes, berbères et autres, beaucoup d'autres cultures, donc il y en a. Mais eux, ils rappent en dialectal palestinien, c'est-à-dire c'est de l'arabe avec des mots qui sont propres à la région là-bas, au Moyen-Orient, et puis à la Palestine, je pense au territoire. Et donc, ça c'est génial parce que il y a une identité propre. Et je trouve que l'instru est très travaillé, le flow aussi. Je pense qu'il y a réellement, pour des gens qui viennent d'un pays où il y a une guerre pareille, où il y a autant de problèmes, c'est quand même hyper courageux. Même au niveau de leur texte, je les ai trouvés super courageux, c'est-à-dire qu'ils prennent position, mais pas que dans un sens. Ils ont une réflexion mesurée, en le sens, c'est-à-dire qu'ils tapent un peu sur tous ceux qui font pas avancer le processus de paix. Ils tapent pas que sur un parti, ils tapent pas que sur les Israéliens ou que sur les Palestiniens. Non, ils tapent un peu sur tout le monde. Ils disent, voilà, c'est un peu la faute de tout le monde. Et en même temps, bon, bah, ils disent aussi, nous, on galère, on galère, on galère. Il se passe quoi? Il faut que ça change.
Donc avec Big, on chantait en dialectal marocain, le Darija. Là, c'était du dialectal palestinien. Et maintenant, une dernière incursion dans le monde hip-hop des pays arabes. Ben, on va carrément à Dubaï, où là, on ne chante pas en arabe, on chante en anglais. Alors Marjolaine, parlez-nous un peu de ce groupe que vous avez choisi, Diligent Fault.
Ouais, en anglais, presque en américain même, on va dire, parce que c'est l'anglais avec un fort accent américain, comme peuvent le faire les Japonais d'ailleurs, chanter, enfin rapper en américain, parce que ça passe mieux, tout simplement. Et eux, en fait, moi j'ai réussi à leur poser la question par mail interposé, et ils disaient que finalement lui il ne parle pas, de toute façon l'arabe il ne le parle pas couramment. Donc déjà, au final, moi j'étais avec mes petites idées, j'essayais de faire une analyse sociologique et tout, pourquoi ils vont rapper en américain, tout ça, mais non, ils ne parlent pas arabe tout simplement. Donc,
ils sont aussi d'origine.
Et en plus, voilà, ils sont même pas originaires de Dubaï, parce que, enfin, ils sont de Dubaï, mais donc c'est un groupe qui sont, voilà, c'est un groupe, ils sont quatre. Il y a deux MC et deux producteurs, enfin, qui font les sons. Donc il y a un MC de Malaisie, enfin Sri Lanka, mais d'origine malaisienne. Il y en a un qui vient du Soudan. Et deux, en fait, donc un DJ aussi qui vient du Soudan, et le dernier DJ il vient carrément d'Angleterre. Donc, et je pense en fait ils sont tout à fait à l'image de leur ville, c'est-à-dire une ville cosmopolite avec beaucoup de travailleurs qui viennent de l'étranger et hyper américanisés en fait, quoi. Et ils font un hip-hop très 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 américain, dans un peu la mouvance de, enfin ils reprennent un peu le hip-hop, jazz, comme à la Gangstar, The Roots, et c'est très très bien fait.
Bon, on les écoute tout de suite avec un morceau qui s'intitule The Chai Spot.
Flyway, feeling lively, tomorrow Friday, and I'm in it. Melody got me lifted from beginning. Driving under influence, intoxicating lyrics, head splitting. Need a little chai for the migraine, cause it calming on the effect like a sunset in the mind. That's why I'm hitting, dying bound. It's what my brother calls a under. Babylon to penetrate the righteous mind shelter. Might just sip a warm brew, get in reflect mood, get into a bronzer, two or three, and call my peoples and proceed to exchange. Transact for the brain, flexing intellect explains how we gain awareness. Never careless, jibber on the microphone, I represent this forever, cultivating self-worth for solitary lounging, ever on a journey, paradise, Zion bound in, yo, ever on a journey, paradise, Zion bound in, it's what my brother calls a under, Babylon.
Voilà, c'était donc Diligent Fault avec un titre qui s'appelle The Chai Spot. Si vous voulez en savoir plus sur le rap et la scène underground au Maroc, vous pouvez écouter l'émission que Mounir Kabbaj a proposée sur Cocotte Musique de Radio Grenouille il y a peu de temps. Elle est écoutable sur Internet, sur le blog 2013, de Marseille Capitale Culturelle 2013. Voilà, il y a un guide aussi qui est paru récemment en Espagne, qui s'appelle Un guide des musiques du Maghreb, qui référence absolument tous les groupes qui existent dans la scène underground, mais aussi les festivals, les journaux, etc. Voilà, et puis vous avez aussi des sites sur Internet. Vous pourrez, pour les groupes Ramal Underground, mais aussi Diligent Fault, j'ai du mal avec ce nom. Donc vous pouvez les retrouver sur le site de Radio Grenouille, sur le site de La Pensée de Midi. On va tout mettre en note. Merci, à bientôt.
Après ce rendez-vous musical autour du rap, cette nouvelle forme musicale largement mondialisée à travers ces trois exemples de Casablanca, de la Palestine et de Dubaï, on change complètement de perspective avec un grand rendez-vous littéraire autour de Hubert Nissen, écrivain, Hubert Nissen, éditeur, autour d'une rencontre qui s'est tenue au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris le mardi 15 avril, avec des interventions de Pascal Durand, Nancy Houston, une lecture de Chloé Réjon du dernier roman d'Hubert Nissen, Les Déchirements, et d'autres interventions de Jacques de Decker, Thierry Fabre et Sabine Vespizer.
Il me semble peut-être qu'on pourrait commencer par le côté féminin de cette table pour aborder, au fond, l'instance féminine dans l'œuvre d'Hubert. Il me semble que c'est une clé fondamentale de tout son imaginaire.
Comme vous l'avez dit à l'instant, oui. C'est terrible, les tables rondes, parce que d'abord, elles ne sont pas rondes, comme vous le voyez. Et ensuite, nous avons tous beaucoup de choses à dire. Et peut-être, plutôt que d'espérer dialoguer les uns avec les autres, on va espérer que nos paroles vont dialoguer les unes avec les autres dans votre tête, en les recevant. Titanic a coulé le 15 avril 1912. Éléonore Korab est décédée le 15 avril 1990 dans le roman Le bonheur de l'imposture. Et nous voilà le 15 avril 2008. Et la preuve qu'il peut y arriver ce jour-là d'autre chose que des catastrophes. C'est une très belle fête. Oui, donc je vais essayer de dire, de résumer ma pensée sur cette présence des femmes, omniprésence et belle présence des femmes dans l'œuvre romanesque d'Hubert Nissen. Parce que la guerre a été l'expérience de son arrivée à l'âge d'homme, elle se déroule entre ses 14 et 20 ans. Tous ses livres sont écrits en quelque sorte en palimpseste. Personne plus que lui n'a conscience de la manière dont le présent est posé sur le passé, tantôt pour l'obturer, tantôt dans des instants de douloureuse fulgurance pour le révéler. Deux images traumatisantes au moins sont fondatrices de l'œuvre, à mon sens. D'abord l'autodafé, quand sa mère brûle toutes les traces de la grand-mère paternelle, et ensuite l'écartèlement, qui est l'image centrale du dernier et du premier roman. Deux images, donc, avec une femme au centre, une fois en bourreau, une fois en victime. De ces scandales naîtra chez Hubert Nissen le besoin, ces scandales de la destruction naîtra chez Hubert Nissen le besoin de construire inlassablement et de transmettre. Ce rempart contre la bêtise, comme il appelle, j'adore cette expression, pour son besoin d'éditer, écrire, traduire, créer, construire un rempart contre la bêtise est souvent matérialisé dans l'œuvre par des carnets. Les gens lisent les carnets les uns des autres, ils se les lèguent, se les volent, se les partagent, les comparent, les chérissent. Et là aussi se réunissent la mémoire et le désir dont Pascal Durand parlait très très bien à l'instant. Je l'ai déjà écrit et je l'ai répété souvent, un des aspects de son unicité, même s'il est double, il est aussi très unique, cet homme, c'est qu'il n'a pas peur de la force des femmes. Comment se fait-il que ce soit là une chose si rare? Peut-être pour apprécier et aimer la force des femmes, faut-il avoir été plus ou moins abandonné par sa mère? Cela rend possible la bonne distance là où la mère aurait tendance à être dangereusement, désastreusement proche, trop forte, peut-être trop étouffante. D'où le fait étonnant qu'il puisse qualifier ses amantes de petites mères, car, dit-il, chacune à tour de rôle l'avait mis ou remis au monde par émerveillement venu d'elle ou parfois d'un seul regard. Donc, quand tu seras à Proust, la guerre sera finie, l'éditeur vieillissant, Paul Leleu, se dit « Il était temps de les aimer toutes, désormais, avec la même tendresse. » Alors, je vais juste essayer de faire un survol des différentes places qu'occupent les femmes par rapport à la littérature et dans la littérature d'Hubert Nissen. Elles sont initiatrices, instigatrices. C'est la grand-mère Tourangelle, par exemple, qui l'introduit à la littérature et lui indique la liberté de traverser les frontières des genres. Il évoque en plusieurs lieux l'intelligence raffinée de cette dame, en compagnie de laquelle il a passé les plus belles heures de son enfance. C'est peut-être grâce à elle qu'il ne s'est jamais posé la question, comme l'ont fait les hommes de robe pendant des siècles, de savoir si les femmes avaient une âme. Femmes et littérature sont aussi des métaphores réciproques. Elles sont imaginées et fortement valorisées en tant que labyrinthe. C'est un mot qui revient dans tous ses livres. Ce qui caractérise donc Hubert Nissen, c'est son refus du simplisme. Or, le simplisme est une des grandes passions de notre époque. On adore entendre Beckett nous résumer la vie humaine comme une vaine attente d'un être qui ne viendra jamais, ou Thomas Bernhard éructer contre les familles. Le concept préféré de Nissen, tout au contraire, c'est le déploiement. Il s'applique à déployer du sens, à laisser venir la complexité, à l'ordonner, la chanter, la tuiler, l'épeler, la tisser, nous permettant d'approfondir toujours plus. Les femmes sont des maîtres ou des maîtresses à penser. Je crois qu'ils n'aimeraient pas que je dise maîtresse à penser. Virginia Woolf notamment. On ne se rend pas compte à quel point les hommes ont encore du mal à citer l'influence d'une femme sur leur pensée ou leur travail. Ici encore, à la différence des prêtres anciens et modernes, Nissen a toujours su qu'il avait 1000 choses à apprendre tant du corps des femmes que de leur esprit. Elles sont collaboratrices. Depuis le début ou presque de la grande aventure Actes Sud, il a associé à ce travail son épouse Christine Leboeuf et sa fille Françoise Nissen et des amis, car le travail est une joie profonde parmi d'autres. Elles sont aussi des accompagnatrices, des auteurs. Mais je voudrais entrer dans les personnages. Jamais dans les pages d'un roman d'Hubert Nissen, vous ne trouverez, pas plus que dans son entourage, une nymphette idiote, un pur objet sexuel, ni une femme idée, ni une caricature d'aucune sorte. Peut-être est-ce une des raisons pour lesquelles ses livres se vendent moins bien que ceux de Michel ou Houellebecq. De chef, le souci de Nissen sera de permettre aux femmes de se déployer. Et qu'est-ce qu'elles se déploient ? Il leur effeuille l'âme. Les personnages féminins dans ces romans sont non seulement complexes, mais complexés, compliqués, imprévisibles, tour à tour ardentes et glaciales, souples et dures. Comme sonne juste, par exemple, ce cri de cœur de Norma dans les ruines de Rome. « Tu n'as aucun droit à me réconcilier avec moi-même. » Une de mes préférées, Éléonore Corab, dans Le bonheur de l'imposture, quand elle fête ses 60 ans, son fils dit « Rien ne pouvait plus me détourner de l'idée que la carnivore Éléonore Corab avait dévoré ses avatars antérieurs. La créature régnante n'avait en commun avec les devancières en elle détrônée que leur attirance pour le désastre. » Je ne vais pas trop parler. Là aussi, c'est très, très important de le lier à ce que vient de dire Pascal Durand. Le passage du temps est lu beaucoup, presque dans chaque livre, sur le corps des femmes. Et en particulier, je pense à l'Italienne au Rucher. Les personnes qui avaient rencontré mon père au temps d'Aurélie parlaient avec envie et parfois admiration de la manière qu'il avait de porter son âge. Ça, c'est sur le père. Ça s'applique très bien à Hubert Nissen. Ni en fardeau, ni surtout pas en coquetterie, plutôt avec naturel. Et comme si c'était le résultat d'une discipline ou le fruit d'une expérience. Alors, sur les femmes, l'homme apprécie en général beaucoup plus le passage du temps sur leur corps que les femmes elles-mêmes. Voici ce que dit par exemple Jérôme Guichard en contemplant la peau de Norma, comédienne vieillissante. La complexion en est rehaussée par les vaguelettes imperceptibles qui le parcourent et de leurs frissons désignent la vie. Mais comment dire cela sans se faire rembarrer? Ou encore, Joanne Pratt dans Éléonore à Dresde, quel homme avait jamais regardé Éléonore de si près avec la conscience que sous ses yeux, seconde par seconde, le temps continuait à la grignoter, la décolorer, l'évider, mais aussi donner à ses traits leur plus grande autorité et amener son visage peu à peu à l'apogée. « Je n'aime pas, » déclara Pratt à Éléonore, « les femmes sans passé. » Phrase révolutionnaire, car les femmes sans passé, c'est exactement ce qu'aime le macho lambda. Mais Nissen ne reste pas une seule seconde dans la complaisance, car voici ce que lui rétorque Éléonore et celles qui n'ont que leur passé avant de se suicider. Last but not least, les femmes sont aussi destinataires de l'écriture. Il y a par exemple la magnifique mademoiselle Esperluette dans « Lira bien qu'il lira le dernier ». Mais surtout dans les romans. de livre en livre, s'affirme et s'affermit, comme l'a révélé un récent survol de toute l'œuvre romanesque, un extraordinaire hommage à Christine Leboeuf. Dans les livres de Hubert Nissen, ce sont les femmes comme Colette, ce prénom revient à trois reprises, l'Italienne au rucher, le bonheur dans l'imposture et de l'imposture et les déchirements. Les femmes comme ces Colette qui détiennent la vraie sagesse, elles sont, mettons, les caravanes qui restent. Confidente admirable, à l'intelligence aiguë mais aimante. Colette était irremplaçable, mieux que la clairvoyance, c'était l'intime vérité de l'univers qui circulait avec le sang dans ses veines. Ou encore, peut-être ai-je connu chez Colette cette capacité qu'ont certaines femmes à porter le monde en elles.
Elle a fermé les yeux. Elle me paraissait trembler un peu. Elle m'a demandé d'aller reprendre son manteau et de le lui poser sur les épaules. C'était un manteau si léger qu'il m'a donné l'impression que je couvrais d'un voile son dos joliment hâlé. Mais quand je me suis rassis en face d'elle, je n'en ai pas cru mes yeux. À l'abri du manteau dont elle tenait écarté les deux revers pour s'en faire une sorte de paravent, elle avait abaissé les bretelles de sa robe qu'elle avait descendue juste assez pour découvrir ses seins. Alors que je les dévorais du regard dans le désordre de la confusion, je me suis fait la réflexion qu'ils étaient nobles, discrets sur l'âge, un peu rebelles même, avec l'air qu'avaient les mamelons de relever le museau. « Autre petit cadeau !» a dit à voix basse l'imprévisible. « Tu sais ?» a-t-elle ajouté avec des yeux où je me serais noyée. « J'ai si souvent surpris tes regards, tu les épiais, tu cherchais à les voir. Contemple-les un instant. Mais c'est un cadeau égoïste, mon petit Valentin. » J'avais envie d'être ce soir une vraie femme à tes yeux. Ni belle-sœur, ni veuve, mais une femme débarrassée des idées que tu pourrais avoir sur son passé, sa dépendance, son insoumission. Je voulais, pour mon anniversaire, être regardée comme je suis et pour ce que je suis, là, tout de suite. Une femme désirante, une femme fière de ses désirs. Puis d'un geste prompt, elle a relevé la robe, en a rajusté les bretelles et elle a fait retomber sur le dossier de la chaise le manteau qui lui avait servi d'écrin. Les seins avaient disparu. C'était donc, en prévision de leur brève exhibition, qu'elle avait voulu s'asseoir en tournant le dos à la salle. Je tentais de laisser la voie libre à ce qu'aurait dû provoquer le singulier cadeau qu'elle venait de me faire et de comprendre le sens de la périlleuse épreuve à laquelle elle avait décidé de me soumettre. J'ai pensé que je pourrais lui répondre par un regard soumis, troublé, admiratif, qui justifierait que je ne prenne pas la moindre initiative. Mais comme je sentais l'impatience et peut-être la suspicion croître dans le sien, j'ai eu recours à ce qui m'avait souvent tiré d'affaire dans des situations délicates, les citations que j'avais accumulées au fil de mes lectures. J'ai trouvé ce que j'ai cru qu'il fallait. « Ramon Gomez de la Serna, » lui ai-je dit avec un sourire plus maladroit que malicieux, a écrit que les seins des femmes d'ambassadeurs représentent leur pays mieux que tout le reste. Un voile était descendu sur le visage de Colette. Cette fois, je n'étais pas tirée d'affaire. Et à ton avis, Valentin, quel pays représente les miens? Pas un pays, Colette, ai-je dit en saisissant la perche et en prenant dans les miennes l'une de ses mains qui me parut froide. Pas un pays, mais un monde qui fut longtemps étranger au mien et que tu m'as donné envie de connaître. J'ai pensé à ce que j'aurais pu lui dire si je n'étais pas revenue de Genève avec ce poison que j'avais dans la tête. Après l'impromptu qu'elle m'avait offert en se dévoilant, j'aurais montré de l'impatience et précipité le repas afin de pouvoir au plus vite la raccompagner chez elle. Et là, avec un peu de chance, un peu d'instinct et tout le savoir-faire que j'aurais tenté d'y mettre, j'aurais peut-être vécu l'expérience décisive sur laquelle j'avais commencé à m'interroger à l'époque où Léonard et moi nous avions rompu et que je résumais d'une question jamais encore formulée devant Colette. Est-il déraisonnable de croire que je puisse un jour aimer une femme jusqu'à la posséder? Ah! Quand je commence à ressasser ainsi, un avertissement me tombe du ciel. Prends garde, imbécile, tu n'es pas dans la fiction. La fiction est une garce qui s'introduit quand bon lui semble, avec sournoiserie, en stummeling. Comme, de ce mot gorgé de mépris, on disait dans le patois flamand de mon enfance. Or, ce que m'avait raconté Colette, dans le désarroi où l'avait mise le mien, ne m'autorisait pas la moindre fantaisie. Donc, prudence, empêchez la fiction de s'en mêler.
Sabine Vespissaire, on ne peut pas s'empêcher de penser, rien qu'à vous voir, que vous avez probablement été un temps une disciple.
Oui, mais moi, je suis émue d'être là parce que je vois que si je suis là, c'est grâce à Hubert. C'est-à-dire que si un jour j'ai eu envie de faire Sabine Vespissaire éditeur, c'est parce que j'ai été très fière de travailler dans une maison où pendant longtemps, il y a eu un petit logo qui était Hubert Nissen éditeur. Et souvent, on me demande, mais pourquoi éditeur? Tu es une femme, éditrice, etc. Et je dis que c'est un hommage à mon maître, puisque j'assume la figure de disciple. Alors, mon maître m'a fait avancer, m'a appris plein de choses. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, quand je travaille et quand j'essaie moi aussi de transmettre ce que c'est que ce métier d'éditeur, soit en parlant à l'université, soit dans une pratique quotidienne, finalement, j'ai quelques viatiques qui sont des phrases d'Hubert Nissen. Alors, c'est un éditeur...
Par exemple,
c'est un éditeur, c'est quelqu'un qui sait faire lire à un écrivain ce qu'il a vraiment écrit et pas ce qu'il croit avoir écrit. Quand un livre est de qualité, quand un écrivain est un vrai écrivain, son livre est contenu dans son premier paragraphe. Ce sont des choses dont je me souviens quand je dépote, comme on dit dans notre jargon. Hubert m'a souvent dit aussi que pour assurer la communication, puisqu'il faut bien passer par là, d'un catalogue, il suffisait de 20 journalistes complices. Et Hubert, comme c'est vrai, je suis aussi ces leçons-là. Et puis, il m'a appris une chose fondamentale aussi, qui est que la forme produit du sens. Et puis aussi, il m'a appris une chose que je répète pratiquement tous les jours, si tu pilotais un avion, ça fait longtemps qu'on se serait crashé.
Bien.
Donc il m'a appris... Alors, moi, je suis arrivée chez Actes Sud, j'étais une jeune prof de lettres classiques pleine d'illusions ou pleine de méconnaissances d'ailleurs de ce métier, parce que je pensais, comme beaucoup de stagiaires qui arrivent là, parce que je suis arrivée comme stagiaire, qu'il suffisait de lire et éventuellement de produire quelques textes fondamentaux de commentaires sur ces textes pour être éditeur. Que nenni. Il m'a appris l'exigence et il m'a appris que ce métier-là, c'était faire des photocopies, faire du café, porter des cartons, qui avait tout un aspect extrêmement pratique, voilà, que nous continuons tous à mener à bien à longueur de journée. Et puis, dans cette boutade, dans ces phrases que j'ai dites, il m'a appris essentiellement que c'était que l'édition avec éditeur. Dire que fondamentalement, tout à l'heure, à la première table ronde, vous parliez de l'importance pour un éditeur de savoir ce que c'est qu'un texte de littérature. Hubert est quelqu'un qui respecte profondément ses auteurs et qui respecte profondément ses textes. Et j'ai toujours considéré qu'à partir du moment où on était suffisamment, un auteur vous faisait suffisamment confiance sur le long terme pour pouvoir éditer ses textes, le plus gros était fait. C'est que le cœur nucléaire de ce métier, c'est vraiment le texte. Après, je crois qu'on peut apprendre beaucoup de choses. On peut apprendre des savoir-faire, et c'est vrai qu'en 2001, nous avons signé les statuts de cette maison d'édition le 11 septembre 2001, donc je m'en souviens, mais les premiers livres sont parus en septembre 2002. Et c'est vrai que quand j'ai créé cette maison d'édition, souvent d'ailleurs avec les conseils de Françoise, d'Hubert, j'ai appris des nouveaux métiers. Moi, ce que je savais faire jusque-là, c'était être éditeur, dans le sens anglais du terme, c'est-à-dire publier, j'espère, correctement un texte, essayer de le faire advenir, faire travailler un auteur, relire attentivement, essayer de montrer là où le bas blesse, là où le texte ne donne pas un son plein, où la forme n'est pas complètement juste. Mais après ça, j'ai appris le métier de publisher. Et j'ai aussi appris au fil des années à m'assumer comme publisher, c'est-à-dire comme chef d'entreprise. Ce qui est une chose assez difficile quand on est un peu rebelle, un peu de gauche, et qu'on se dit non, j'aime pas diriger les gens, j'aime pas la hiérarchie. Et finalement, je me souviens souvent de la manière dont Hubert dirigeait cette équipe-là, pour me dire non, il faut que tu le fasses, il faut que tu assumes ce rôle-là. Donc voilà, c'est tout ça que j'ai appris chez Actes Sud. Et juste une petite anecdote, tout à l'heure je disais qu'une des grandes phrases qui me restait, que je citais souvent, c'était « la forme produit du sens ». J'ai en effet eu à cœur, en créant ma propre maison d'édition, d'avoir une maquette très identifiable, avec des livres de qualité, qui sont des livres cousus, mais qui n'ont finalement rien à voir avec les livres d'Actes Sud, qui sont des livres longs, enfin, qu'on connaît tous. Mais la première fois que j'ai vu celui qui allait devenir le chef des ventes, donc le diffuseur, distributeur de la maison Gallimard, il a regardé les maquettes, il a regardé mon programme éditorial, et il m'a dit, on voit que vous venez d'Actes Sud, vous. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Très évidemment, me disant, mais ciel, je suis quand même très originale.
J'ai pourtant tout fait pour m'émanciper.
Il me dit, vous avez fait exactement le contraire, mais dans le même esprit. Et le même esprit, c'était cette attention à la qualité, à la forme qui produit du sens et à la mise en scène du texte.
Voilà. Oui, parce qu'on ne peut pas être plus anti-Actes Sud que la couverture carrée, pas d'image.
Anti, j'espère non, mais en tout cas, différent.
Bien. C'est Thierry Fabre. Je pense que là, étant vous-même basé à Marseille, si je ne me trompe, là vous êtes un témoin de proximité, je dirais, de cette aventure. Vous l'êtes depuis longtemps.
Oui, il y a de belles aventures communes avec Actes Sud et singulièrement avec Hubert Nissen, autour de la revue et d'une collection qui s'appelle Bleu. Mais je voudrais d'abord, en écho à ce qu'a dit Farouk tout à l'heure, à travers la figure de Jacques Berck, que Hubert a bien connu et qui j'ai eu le plaisir d'ailleurs de rencontrer ensemble avec Farouk Bardamé. Jacques Berck était donc un professeur au Collège de France, retiré à Saint-Julien-en-Born. Et il utilisait une très belle image, d'ailleurs, d'un poète publié chez Sinbad, qui est Kate Biassine, utilise l'image du polygone étoilé. Et il me semble que pour ajouter à mémoire et désir et à la figure arachnéenne, j'aimerais bien utiliser cette figure du polygone étoilé pour parler du Bernissen et de prendre comme ça, pendant 5 minutes, quelques fragments qui, à mes yeux, de ce polygone pour dire au fond ce qu'il peut transmettre. Alors, le premier élément je voudrais éclairer, c'est peut-être autour de son journal. Vous avez dit tout à l'heure que nous en publions régulièrement dans la Pensée de Midi, dans chaque numéro, depuis déjà quelques années, des fragments que Hubert choisit lui-même. Et c'est vrai que je suis un lecteur régulier et attentif de ce journal. Et il n'y a pas longtemps, Hubert, dans ce journal, disait, pour une conférence qu'il allait donner à Genève, Écrire, c'est lire. Bon, ça a été dit à plusieurs reprises. J'ajouterais volontiers, éditer, c'est écrire. Et je crois qu'on ne peut pas dissocier justement ces dimensions. Et d'ailleurs, il y a un très beau texte de Hubert, on a parlé des variations, les quatre claviers de son petit orgue, lire, écrire, découvrir, éditer. Et il me semble que dans ce journal, on a ces variations autour de ces quatre dimensions. Et au fond, dans ce journal, il y a la volonté de saisir le fil du temps, pas pour empêcher qu'il ne s'écoule, mais simplement pour en garder quelques traces, quelques impressions. Et je crois aussi fortement que dans ce journal, comme exercice d'écriture, il y a, au fond, ce que peut-être, c'est d'ailleurs, ça apparaît à un moment, une forme de ce que les danseurs appellent l'échauffement. J'ai connu il n'y a pas longtemps un grand danseur soufi, derviche, et il me dit, mais pour écrire, quel est ton échauffement? Comment tu fais? Moi, je passe des heures à me déplier le corps. Et au fond, à lire le journal de Hubert, je crois qu'assez justement, on a cet exercice d'échauffement de la langue, de la pensée, de la main, qui en permet de, je dirais, d'entrer en écriture et d'être pas simplement, je dirais, un esprit fertile à foison, mais un esprit fécond. Il y a, me semble-t-il, dans le journal, une sorte de discipline de l'esprit qui est là, qui est à l'œuvre, et, comme le disait Sabine, cette forme qui crée du sens. Deuxième, pour moi, le deuxième fragment de la figure de ce polygone étoilé, pour parler d'Hubert, ce serait peut-être autour de l'expression de la volonté. Je crois qu'il y a de la mémoire, du désir. Dans ce très beau livre « La sagesse de l'éditeur », qui est un éloge de sa folie, il dit ceci « Être éditeur, c'est d'abord manifester un vouloir faire allié à un vouloir rêver. » Un vouloir faire allié à un vouloir rêver. Quelle plus belle définition de l'éditeur. Et je me suis demandé, mais au fond, d'où vient ce vouloir ? Et il me semble que là, on rencontre la mémoire et le désir. Elle vient sûrement, justement, de cet appel du désir de transmettre, de ne pas laisser les choses en cendres ou en feu et de pouvoir donner. D'ailleurs, ici, Genot, l'homme a toujours le désir de quelque monstrueux objet et sa vie n'a de valeur que s'il la soumet entièrement à cette poursuite. Je crois que c'est peut-être un fragment en miroir que l'on peut entendre là. Et il y a dans cette volonté, une très grande exigence et dans ce désir, la volonté d'être justement décentré, d'être sur les marges. Il me semble que c'est une des grandes forces et une des grandes caractéristiques, singularité, je dirais, de Hubert Nissen et d'Actes Sud. C'est une maison qui, dans l'espace éditorial français, est justement pas née à Paris. Et ça a longtemps été considéré comme un handicap. Comment peut-on faire de l'édition en dehors du monde germano-pratin? Il me semble que, justement, si Actes Sud a pris cette ampleur et ce déploiement aujourd'hui, c'est que juste, elle n'est pas dans ce monde-là. Elle lui échappe. Elle échappe à ses bruits, à ses... voilà, ce Landerneau, ce Jean Solpartre, tout ce monde-là littéraire un peu, qui tourne un peu sur lui-même. Et il me semble que la force d'Actes Sud vient de cette capacité à décentrer son regard et à aller chercher des textes étrangers, notamment pour les faire venir dans la littérature française. Ce qu'a raconté Farouk à propos de la littérature arabe vaut pour beaucoup d'autres littératures de langue non française. Le troisième fragment à mes yeux de ce polygone étoilé que représente Hubert Nissen, c'est une figure de l'esthétique. Une esthétique de soi d'abord, avec un très grand sens de l'élégance, mais qui n'est pas une affectation, qui fait intimement partie de son mode d'être au monde, d'être avec sa pipe comme un élément, non pas pour composer un personnage, mais parce que ça fait partie du maintien, de l'élégance. Et cette esthétique, elle est aussi une esthétique de soi, une esthétique de l'autre. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a très bien dit Nancy Houston dans le rapport aux femmes, donc cet immense goût de la beauté, qui est une esthétique de l'œuvre, à partir de la forme qui crée du sens. Je crois que Actes Sud a réussi à s'imposer dans le paysage éditorial parce que justement, il y avait cette exigence de beauté, de laisser une empreinte qui ne à nul autre pareil. Et puis, une dimension qui me touche beaucoup et qui, je crois, nous a fait voisiner avec Hubert, avec cette belle rencontre régulière comme ça au Martin et au Paradou, qui est l'esthétique du Sud. Qu'il l'a profondément approprié, et c'est bien ça au fond qu'on a tenté dans cette revue, La pensée de midi, qui est une image de Camus, et sûrement pas La pensée du midi, c'est-à-dire sûrement pas un régionalisme, mais faire à partir de Marseille, à partir de ce monde méditerranéen, de donner un éclairage au fond à un regard sur le monde. Et en y réfléchissant sur cette esthétique du Sud ou du midi, de midi, il y a chez Hubert Nissen quelque chose comme un des textes moi qui me parle le plus, qui est Le Guépard, une des magnifiques adaptations cinématographiques, là aussi avec Quelle beauté de Claudia Cardinale et d'Alain Delon. Mais en y réfléchissant, je me suis dit que quelque part il y avait un peu de Guépard chez Hubert Nissen, un peu de Guépard, mais
peu de Burt Lancaster aussi.
Un peu de oui, peut-être, qui regarde la danse, mais un peu d'Alain Delon sûrement aussi. mais de Guépard, avec cette immense différence qui n'a pas le sens de la décadence, le sens de la décadence en moins. Et je crois que ça vient justement de l'expression de la volonté, de ne pas consentir. De vouloir faire et de vouloir rêver. Il y a ça qui, me semble-t-il, est profondément à l'œuvre. Et le dernier fragment que je voudrais évoquer de ces polygones qui, comme ça, a constitué l'image de Hubert au fil des discussions pour élaborer cette revue, pour travailler sur des textes pour la collection bleue, c'est au fond, c'est un moment, je me suis rendu compte en parlant avec Hubert Nissen que j'avais découvert Actes Sud par un des livres qui était à ses yeux le plus cher. J'ai découvert ce livre quasiment en sortant du lycée, dans une librairie qui s'appelait La Librairie Apollinaire. Je crois que ce livre est un livre que Hubert vraiment aime par-dessus tout, qui s'appelle Baleine, qui est un texte de Paul Gaden. Et qu'il a ressorti, je crois, d'ailleurs de la revue Empédocle. Ce texte, moi, m'a fait découvrir, je crois qu'il a été publié en 1982. Et ce texte m'a fait découvrir, au fond, ce que c'était que l'importance de la littérature. Est-ce que, par le détour de la littérature, on pouvait accéder à un monde, comprendre un monde, accéder à un autre univers. Et cette métaphore de la baleine, à la fois dans sa splendeur et dans sa décomposition, illustrer très bien la force et le pouvoir de la littérature et ce que, au fond, à partir d'un livre, on peut transmettre. Et en relisant un extrait dont Hubert parle dans son journal, il parle justement de Gaden avec cette idée d'un tenace désir de grandeur. Quelle plus belle façon de résumer son travail et son œuvre. Merci. Dernier moment littéraire à ce rendez-vous de midi avec le grand poète Yves Bonnefoy qui, comme Paul Valéry, a été professeur de poétique au Collège de France. Et Yves Bonnefoy nous donne deux nouveaux textes qui viennent paraître, l'un chez Galilée, L'Alliance de la poésie et de la musique, et l'autre, aux éditions Mercure de France, La longue chaîne de l'encre. Alors c'est vrai que ce grand poète de la présence qu'est Yves Bonnefoy, rien de mieux qu'au fond pour un poète que de l'entendre. Et je vais donc vous lire un fragment de ce poème qui s'appelle La longue chaîne de l'encre, qui dit un peu toute la force, je dirais le lyrisme maîtrisé et le sens de l'image de Yves Bonnefoy. On dit que des barques paraissent dans le ciel et que de quelques-unes, la longue chaîne de l'encre peut descendre vers notre terre furtive.
l'encre cherche sur nos prairies, parmi nos arbres, le lieu où s'arrimer. Mais bientôt, un désir de là-haut l'arrache. Le navire, d'ailleurs, ne veut pas d'ici. Il a son horizon dans un autre rêve. Il advient, toutefois, que l'encre soit, dirait-on, lourde, inusuellement, et traîne presque au sol et froisse les arbres. On l'aurait vu se prendre à une porte d'église, sous le cintre où s'efface notre espoir, et quelqu'un de cet autre monde fût descendu, gauchement, le long de la chaîne tendue, violente, pour délivrer son ciel de notre nuit. Ah, quelle angoisse quand il travailla contre la voûte, prenant à pleine main son étrange fer. Pourquoi faut-il que quelque chose en nous leurre l'esprit, dans cette traversée que la parole tente, sans rien savoir, vers son autre rive. Il y a ainsi chez Yves Bonnefoy le désir de l'ailleurs et cette quête de l'autre rive que l'on écoute avec cette invocation sur l'horizon et ces remarques sur l'horizon qui sont un autre fragment que je souhaiterais vous lire de ce recueil intitulé « La longue chaîne de l'encre » et qui vient de paraître aux éditions Mercure de France. Yves Bonnefoy. Parlons de l'horizon, mes amis. De quoi pourrions-nous parler d'autre ? Toujours nous parlons de lui, ou plutôt en lui, quand nous formons des projets, quand nous aimons. Quand nous aimons, car aimer un être, un chemin, une œuvre, c'est voir que cette ligne là-bas, si loin à l'avant, cette ligne toute lumière, est tout autant ici même à les traverser, les retraverser, comme sur la plage la mer vient et revient dans le sable, y soulevant puis y laissant retomber l'algue remuante, la vie obscure. Ligne de là-bas et ligne de par ici. Chacun a jeté l'écume de l'inconscient sous nos pas. Phrase qui étincelle de glisser à la crête de cette vague qui se gonfle comme une nuit, puis s'écroule, puis à nouveau se soulève. On entend dans la poésie d'Yves Bonnefoy le ressac. Et c'est vrai que dans le sillage de la pensée de midi, une collection a été créée, la collection bleue chez Actes Sud. J'ai trouvé dans ce recueil, au fond, la signification, peut-être qu'on pourrait donner à cette invocation du bleu. Le bleu des lointains dans les mots aussi, comme le sens rêvé dans la chose dite. Le sens rêvé dans la chose dite, n'est-ce pas ce que la littérature a à nous révéler du monde et à nous raconter ? Cet élément apparaît aussi dans l'autre texte qui vient de paraître d'Yves Bonnefoy, l'alliance de la poésie et de la musique, et d'ailleurs qui prélude un numéro de la Pensée de Midi que nous ferons l'année prochaine autour de musique et poésie avec Catherine Payon. Et dans ce texte, Yves Bonnefoy écrit ceci. Parlons de l'être pourtant, car lorsque la tempête secoue la barque et peut la faire sombrer, qui peut croire à son bord que cette notion soit privée de sens ? Qui doute d'être s'il continue à ramer? J'appelle être la donation d'absolu que ceux qui collaborent ainsi à résister à la vague se font les uns aux autres, spontanément, sans réserve. Ils sont du simple fait qu'à plusieurs ils veulent survivre. L'être, c'est la conséquence du vouloir être quand ce vouloir se fait une alliance. Il y a là, me semble-t-il, une très belle définition que nous donne Yves Bonnefoy et à partir duquel on peut réfléchir sur notre façon d'être dans le monde. L'être, c'est la conséquence du vouloir être quand ce vouloir se fait une alliance, c'est-à-dire le contraire d'une démission, la volonté de s'affirmer debout face à l'état du monde et de tenter de lui donner un peu plus de sens. Merci à Yves Bonnefoy de prolonger sa poésie de la présence qui nous donne à lire une grande façon de regarder le monde et de tenter de le comprendre.